Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je vous propose une méditation. Nous allons partager un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et nous allons tirer, en effet, une réflexion, une méditation autour de ce passage. Donc, Jean, chapitre 16, et nous commençons notre lecture à partir du verset 5. Voilà. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il va leur donner une nouvelle qui va profondément les bouleverser. Mais il y a une consolation derrière ce qui va être dit, ce qui est dit. Et je pense que c'est une grande espérance parce que ça va être le fondement, la base, si vous voulez, de la conviction du salut. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que si nous prenons en considération que Jésus est venu pour sauver le monde, eh bien nous avons véritablement à travers ces quelques lignes, ces quelques mots, eh bien cette preuve, la preuve, nous pourrions dire la preuve du salut que Jésus a accompli. Alors voilà, donc au chapitre 16, verset 5, Jésus parle. « Maintenant, dit-il, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà pour notre situation, pour cette réflexion que nous allons partager, méditer ensemble ce soir. Jésus va annoncer à ses suivants, à ses disciples, qu'il va partir. Alors c'est vrai qu'il y avait une intimité qui s'était instaurée depuis 3 années. Des hommes, des femmes l'avaient suivi, particulièrement les 12. Et Jésus va faire l'effet d'une bombe en disant ces mots parce que même si déjà il les avait laissé entrevoir qu'il ne resterait pas sur cette terre, il n'avait pas tellement cru à ce qui leur avait été dit. Alors ils vont être surpris et il dira « Mais je vais maintenant rejoindre celui qui m'a envoyé ». Donc ce qui atteste tout à fait que Jésus est sur le point d'avoir rempli sa mission et d'avoir tout à fait satisfait à l'obéissance que son Père Céleste, attendez-le lui. Et Jésus va retourner les choses en disant « Mais personne ne me demande où je vais. » Comme si Jésus attendait qu'il y ait une question. Et pour nourrir peut-être, des réponses chez ses disciples. Alors, où vas-tu ? Jésus continue et il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. » Oui. Je pense que la compagnie de Jésus les avait certainement, bouleversés, éblouis, émerveillés, non seulement sa personne même, mais ses œuvres, à travers des paroles ineffables, des discours qui n'avaient rien à voir avec les discours humains, mais quelque chose qui touchait profondément les vies et les cœurs. Et à ce moment-là, quand Jésus leur dit qu'il va partir, eh bien, ils se sentent un peu orphelins. Ils se posent la question en disant « Mais qu'est-ce que nous allons devenir ?» On se souvient de Pierre, de Jean, de Jacques, qui avaient abandonné 3 ans auparavant, eh bien, leur état de pêcheur, de poisson sur le lac de Tibériade. Et ils se disaient « Mais qu'est-ce que nous allons faire ?» C'est une véritable préoccupation. Ils se sentaient quelque part abandonnés. Alors Jésus constate « Eh bien, voilà la tristesse dans votre cœur. » Mais en contrepartie, Jésus va les amener sur un autre terrain et leur dire qu'il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils remontent au ciel puisqu'il est venu du ciel, et qu'à ce moment-là, eh bien, ça sera quelque chose, ça ne sera pas une perte, ça ne sera pas quelque chose qui va être ressenti comme une terrible nouvelle, mais comme une bonne nouvelle, parce qu'il dit, mais il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, il y a quelque chose qui va manquer. C'est-à-dire que, et en reprenant le texte, il dira « Il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur » et c'est intéressant parce que devant la tristesse, il y a tout de suite une réponse qui s'appelle le Consolateur. Et quand on est triste, on a besoin de consolation. Alors il parlera comme d'une personne qui est réellement une personne, qui est la troisième personne de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit. Alors il viendra sur vous, ce qui va être aussi une expérience d'une dimension extraordinaire qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours et qui certainement demeurera encore, tant que le Seigneur n'est pas revenu vers les hommes sur cette terre. Eh bien, c'est l'histoire tout simplement qui viendra, qui surgira dans la vie de ses disciples, que l'on appelle la Pentecôte. « Le Consolateur, dit Jésus, ne peut pas venir si je reste avec vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Une dimension inattendue, une dimension qui n'a plus rien à voir avec la nature, avec l'humanité, avec les choses humaines, mais une expérience qui viendra du ciel, qui va saisir les croyants, qui va saisir les disciples d'abord en premier. Ils seront 120 dans la chambre haute à Jérusalem donc. Et là, à ce moment-là, eh bien, ils vont faire une expérience de cette présence de Dieu qui ne sera pas seulement avec eux, mais qui sera en eux, avec une preuve. Comment pourrait-on dire ? Une preuve irréfutable. Ils vont, eh bien, se mettre à parler en d'autres langues. Ouais. Dans le texte du livre des Actes, où est raconté, où le récit nous est donné dans la Bible, il nous est dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc je vous enverrai le Consolateur. Et ce Consolateur, eh bien nous allons voir son rôle aujourd'hui. Non seulement dans l'expérience, eh bien, de l'effusion du Saint-Esprit, mais dans ce qu'il va apporter au monde, non pas tant pour les chrétiens, mis à part la Pentecôte, mais dans le monde entier, pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu encore, qui n'ont jamais peut-être entendu parler de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile. Alors le Consolateur, eh bien, sera envoyé. Et quand il sera venu, nous précise Jésus, il convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a un verbe qui est très intéressant à prendre en compte, c'est le mot, c'est le verbe convaincre. Eh oui. Comment peut-on, humainement parlant, convaincre des hommes qui ne croient pas, le monde, cette humanité qui nous environne, les convaincre que Dieu est vivant, que Dieu est réel, que Dieu est sauveur, que Dieu est créateur, que Dieu est le rédempteur? Comment convaincre les gens? On serait bien incapable. On pourrait peut-être trouver des arguments, on pourrait peut-être trouver des raisons pour prouver ceci et cela, mais est-ce que ce serait suffisant? On s'aperçoit que depuis que le monde est monde et depuis que, eh bien, la croyance est au fond du cœur de l'homme, quel qu'il soit, sous quelque latitude qu'il se situe, cet homme, eh bien, on s'aperçoit que c'est très difficile. Parce que on va bien réaliser, et la Bible nous dit que, humainement parlant, l'homme est en quelque sorte en opposition avec la conception de Dieu. D'un Dieu créateur d'abord, d'un Dieu sauveur et rédempteur. Alors ne parlons pas de Jésus, parce que là c'est le reversement. C'est l'antipuissance, nous pourrions dire. Un Dieu qui se fait homme, qui va répandre tous les trésors du ciel et qui va finir par être traité, condamné, crucifié comme le pire des malfaiteurs. Je dis bien c'est l'antipuissance puisque Dieu est la puissance, la toute puissance. Alors comment convaincre les gens que c'est précisément par Jésus, Jésus qui va partir, Jésus qui ne va pas rester parce que on pourrait peut-être penser qu'il aurait pu rester 100 ans, 200 ans hein, pour véritablement évangéliser le monde. Non, il est resté que 3 ans dans un plein ministère, nous pourrions dire. Alors il nous est dit, mais il est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Consolateur. D'abord, il va consoler vos cœurs. La tristesse va disparaître et ça va être la joie. Et puis d'un autre côté, eh bien ce Consolateur, lui, il va convaincre le monde ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne saurez jamais faire. Il viendra du haut du ciel. Il prendra des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, et il va les convaincre. Qui a donné le mot « conviction ». Qu'est-ce que c'est que ça? Quelquefois, on se méprend entre les opinions et les convictions. On peut avoir des opinions politiques, peut-être davantage plus accrochées, des convictions politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a là, au fond de notre cœur, au plus profond, au très fond de notre âme, quelque chose dont nous sommes assurés, dont nous avons la certitude absolue. Et il y a malheureusement dans l'humanité des hommes qui ont des certitudes absolues sur ce qui est faux. Et ils sont sincères. Mais sincère n'est pas forcément vérité. Ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on est automatiquement dans la vérité. Alors, il faut qu'il y ait ce consolateur qui sera appelé l'esprit de vérité. Et qui va mettre dans le cœur des hommes l'amour de la vérité, parce qu'il faut avoir l'amour de la vérité pour recevoir l'esprit de vérité. Faut y aspirer, faut le désirer. Mais comment les hommes pourraient-ils le désirer puisqu'ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire tout cela. Alors c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Ce que nous en sommes ce soir les uns et les autres, c'est que Dieu nous a convaincus. Hein. Parce que nous n'étions pas ce que nous sommes maintenant. Vaine croyance, religion, d'occasion, ou à l'occasion, mais pas plus. Nous avions une croyance. Mais la foi n'est pas croyance. La foi, c'est une conviction. Des choses que l'on espère, des choses que l'on sait intuitivement au fond de notre cœur comme étant véritables, justes, vraies, absolument vraies. Alors, il fallait pas des persuasions humaine ou des discours de la sagesse humaine, mais il faut que cet esprit de vérité qui s'appelle le Consolateur, qui va apporter une consolation au monde entier qui est perdu, pour lui donner une consolation d'être sauvé par le salut qui va venir, alors je vous l'enverrai et quand il sera venu, eh bien il va convaincre. Jusqu'à ce moment-là, c'est encore au futur. Mais quelques pages plus tard, dès que nous abordons le début de ce livre d'histoire qui est le livre des actions ou des actes des apôtres, alors nous allons voir que le Saint-Esprit va être répandu. Et encore 2000 ans après, il est encore répandu sur la surface de la terre. Il y a des hommes que l'on appelle les pentecôtistes. C'est un nom. Ça veut pas dire plus que cela. Sinon que ce sont des hommes et des femmes qui, par le monde entier, il y en a des millions et des millions qui ont fait cette expérience de la réception du baptême du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, et qui aujourd'hui, comme signe initial, en font la démonstration en parlant langue. Remplis des dons de l'Esprit et produisant des fruits dans leur vie, des fruits qui les mettent à la ressemblance, qui normalement, théoriquement, les amènent à être à la ressemblance de Jésus. Dans l'amour, dans la bonté, dans la patience, etc., etc. C'est pas notre propos. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il y a trois preuves données, apportées par le Saint-Esprit dans le cœur des hommes, que nous avons, dont nous avons fait nous-mêmes l'expérience. On ne peut pas être chrétien sans être passé par ces trois éléments, le péché, convaincu de péché, convaincu de justice et convaincu de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, il y a des chrétiens qui sont venus me dire, mais j'ai du mal à comprendre ce texte. C'est difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de complexité, on va essayer d'aborder le sujet très facilement. La première chose, on pourrait dire le numéro un, c'est donc convaincra de péché. Il y a quelque chose qui, depuis la naissance de l'humanité, ou la venue de l'humanité sur cette planète, a marqué les hommes, que l'on pourrait appeler le péché des péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui est à la base de tout le reste, et qui fait que les hommes sont en errance, à travers toutes sortes de conceptions, ont remplacé finalement la parole de Dieu révélée telle qu'elle nous est présentée dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, où le Saint-Esprit véritablement amène les hommes à la foi, les amène à croire en Dieu, et ont inventé, pour gommer un peu tout cela, eh bien, des religions, des philosophies, des théologies, enfin toutes sortes de choses. Et pour le rappeler, le péché devant Dieu, à l'origine, c'est l'incrédulité. Et vous en avez la preuve, puisque Jésus nous dira, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et un peu plus tard, il dira, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le gros problème de cette faillite de l'humanité, et de ces misères, de ces drames, de ces souffrances, de tout ce que génère finalement eh bien, cette séparation et cette rupture entre la créature et le créateur, c'est tout simplement le défaut de foi ou le défaut de croire, que l'on appellera tout simplement l'incrédulité, qui est le contraire de ce que Dieu attend. Je crois en Dieu ou je n'y crois pas. Dieu n'existe pas ou alors il existe. S'il existe, j'ai des convictions. S'il n'existe pas, alors à ce moment-là, je vais remplacer par toutes sortes de conceptions, de croyances, de vaines croyances, toutes sortes de choses, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Regardons quelques instants et brièvement ce que nous dit, et on va peut-être travailler pas mal dans l'évangile de Jean. Au chapitre 6, chapitre 6, il est dit cette parole qui nous éclaire sur le drame de l'incrédulité qui amène les hommes finalement, eh bien, à la misère, à se renfermer dans une prison de misère. Chapitre 6, verset 28. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit ceci. En vérité, c'est Jésus qui le dit. Je vous le dis, vous me chercherez non pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors, attendez, je me suis peut-être trompé. 26, 28, voilà, exactement. Je reprends verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Voilà, les gens sont autour de lui, ils viennent poser cette question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il y avait peut-être pas mal de gens autour, dans la présence de Jésus, et avec peut-être de l'insincérité dans cette question. Ils lui diront, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Or, ils vont, par-delà les paroles qui viennent de leur être adressées, que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, ils vont dire, mais quel miracle fais-tu? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyons en toi. Eh bien là, vous avez la démonstration patente que la foi, ce n'est pas de voir, la foi, c'est de croire. Ce n'est pas de faire ou de voir, c'est de croire. Qu'est-ce que nous devons faire comme œuvre? Jésus dit, c'est pas ça. Alors donne-nous un miracle, et alors nous verrons et nous croirons. Ce n'est pas ça non plus. Jésus va le résumer à travers cette simple phrase, tout simplement, l'œuvre de Dieu, il n'y a rien à faire. Donc c'est pas une œuvre, on pourrait dire, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais l'œuvre de Dieu, elle est intérieure. C'est une disposition profonde dans votre âme, au fond de vous-même. Cette œuvre que Dieu attend, c'est que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé, tout simplement. À partir du moment où nous croyons que Dieu a envoyé Jésus-Christ, que nous le croyons, par cette foi en Christ envoyé de Dieu, eh bien nous sommes sauvés. C'est compliqué ? Vous me répondez pas, je pense que vous avez tous compris. N'est-ce pas ? Voilà. Et aujourd'hui, les hommes, le monde, même le monde religieux, pense que l'on est sauvé par les œuvres. Paul répondra dans Éphésiens, il dira, mais c'est pas par les œuvres. C'est par la foi, c'est une grâce, un cadeau, un présent que Dieu vous fait. Parce que si vous voulez faire les choses sur les bases d'œuvres à faire, eh bien vous allez finir par vous glorifier, en disant, mais moi je suis plus fort que les autres, je suis supérieur aux autres. C'était bien le problème de toutes les religions, et particulièrement la religion des pharisiens, qui faisaient ceci, qui faisaient cela, et qu'ils pensaient que, eh bien, une place leur était acquise au paradis de Dieu, parce qu'ils faisaient eux-mêmes leur propre salut, tout simplement. C'est pour ça que c'est eux qui ont crucifié Jésus, qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont trahi. Parce que Jésus était en train de révolutionner leur conception religieuse. Toujours en restant dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, alors nous nous rapprochons du texte que nous avons lu tout à l'heure, au verset 35, il est dit ceci, alors c'est encore une réponse que Jésus donne, verset 37, pardon, je me suis trompé dans les références, pour nous dire que les choses sont difficiles quand même pour les hommes. Il est dit, mais malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été, ou le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Eh oui, c'est la grande difficulté, parce que Jésus, dans le premier texte que nous avons vu, avait entendu ses détracteurs lui dire, mais quel miracle! Et Jésus a fait des dizaines, des miracles, des centaines de miracles, et malgré tous les miracles, vous avez remarqué le texte, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc c'est pas le miracle qui donne la foi. La preuve? Ils restaient incrédules. L'incrédulité, c'est une gangrène, c'est un cancer, c'est quelque chose qui renferme les hommes captifs, hein, qui les oppresse, qui les opprime en tous les cas, et qui les met dans une prison où ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est uniquement leur raisonnement qui compte, c'est leur intelligence. Mais où est leur cœur? Parce que la foi, elle vient du cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé, nous dit l'apôtre Paul. Ce sont des choses simples. Donc, le premier élément que Jésus nous laisse, c'est la foi et le péché qui doit être mis à mal, qui doit être évacué, qui doit être pardonné, reconnu et confessé, dont nous avons besoin d'être délivrés, c'est l'incrédulité, tout simplement. L'Esprit vous convaincra ou convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. Parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape par laquelle nous sommes passés les uns et les autres. Ce qui fait que, d'incrédules, nous sommes devenus des croyants. Mais des croyants de la foi, des croyants ayant la foi, non pas dans l'homme, mais une foi spirituelle qui vient de l'Esprit. Parce que je vous rappelle que le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui affirme les choses. La deuxième question, c'est la justice. La justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jésus avait annoncé, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. D'accord ? On a discuté un petit peu sur la question que Jésus allait quitter cette petite troupe d'amis, de disciples, et en pensant peut-être qu'il n'y aurait plus de miracles, il n'y aurait plus de paroles ineffables qui descendraient du ciel, d'enseignements. Or, c'est complètement faux, puisque c'est à partir du moment où Jésus va partir que c'est la terre entière qui sera envahie des œuvres que Jésus a faites dans une petite dimension, même si ça a été abondant, puisqu'il nous est dit dans l'évangile de Jean que si on écrivait tous les miracles que Jésus a fait, Jean nous dit que je ne pense pas que la terre entière serait capable de contenir tous les livres qu'on écrirait. Et je pense que la vie de Jésus et tout ce qu'on a pu écrire sur Jésus, sur Dieu, a rempli à travers les siècles et les siècles des bibliothèques innombrables. Oh oui, me semble-t-il. D'ailleurs, la Bible en fait foi, puisque c'est encore aujourd'hui, en 2013, le livre, le best-seller mondial, le livre qui est encore le plus vendu au monde, Le plus lu, c'est peut-être à voir, mais en tous les cas, le plus diffusé, le plus répandu dans le monde. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, parce que c'est juste. Et Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu. Et comment peut-on interpréter cette justice de Dieu ? L'homme, depuis les temps immémoriaux, a essayé de se sauver lui-même par sa propre justice, précisément par des œuvres, en faisant ceci, en faisant cela, en satisfaisant des devoirs religieux, à travers toutes sortes de cérémonies, à travers toutes sortes de choses. Ça, c'était, on pourrait dire, les premiers éléments qui ont été donnés par la loi de Moïse. Et Jésus est venu apporter une révolution. Hein. Ceux qui m'adorent maintenant, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Hein. Il n'y a plus de temple, hein. Il n'y a plus rien de ce côté-là. C'est fini. Hein. Vous allez marcher maintenant comme sur un chemin d'invisible et vous allez me rencontrer sur ce chemin par la foi. Alors, le deuxième point, donc la justice. Et cette justice, elle pourrait se résumer en une seule phrase, si vous permettez. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit que le Saint-Esprit viendra. Il conviendra, il convaincra le monde de la nécessité de croire pour être sauvé. Le deuxième point, c'est que Dieu s'est incarné à travers la personne de Jésus pour remplir une justice dont nous n'étions absolument incapables de réaliser. Puisque toutes les religions ont échoué. Puisque même la loi de Moïse a échoué. Puisque le résumé de cette application à mettre en pratique les 10 commandements, la Bible nous dit que si quelqu'un réussit à mettre 9 commandements en pratique, mais qu'il en fera un seul, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc c'est impossible. Et la justice, et le Saint-Esprit est venu, a été répandu sur le monde de 1000 manières pour annoncer au monde que la justice de Dieu a été accomplie à travers la personne de Jésus. Et ça s'est réalisé à travers le prix de l'obéissance de Jésus jusqu'à mourir en sacrifice sur la croix. Voilà la justice. Le Saint-Esprit nous convainc que nous ne pouvions rien faire nous-mêmes, même le meilleur, le plus noble, ou le plus intelligent, le plus spirituel, ou le plus religieux, le plus moral des hommes, a échoué dans ce domaine, et il fallait qu'il y en ait un qui accomplisse ce que nous ne pouvions pas faire. C'était impossible. Et cette justice s'est accomplie à travers le sacrifice de Jésus. Toutes les images de l'Ancien Testament à travers l'agneau pascal, à travers les sacrifices d'animaux, étaient une anticipation de ce que Jésus ferait lorsqu'il viendrait et qu'il accepterait, qu'il consentirait à mourir, non pas pour lui, mais pour nous, pour les hommes de tous les temps et de toutes les générations. Et cet acte, cette obéissance, ce oui à Dieu, serait véritablement un acte de justice. Alors voyons cela. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens ? Dans Éphésiens, chapitre 2, il nous en est parlé justement de cette justice dont le Saint-Esprit veut convaincre le monde. Verset 16, chapitre 2, verset 16. Il nous est dit cette parole. Au verset 15, il nous est dit, ayant anéanti dans son sacrifice de sa crucifixion, je traduis, hein, la loi des ordonnances et des prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre dans un seul corps par la croix. Alors, on y arrive, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Jésus a donné sa vie sur la croix, et en donnant sa vie, la justice de Dieu a été satisfaite. Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Voilà. Ça, c'est la justice de Dieu. Un seul sacrifice pour toute l'humanité, une seule fois et une fois pour toutes. C'est parce que Jésus a consenti à se laisser crucifier, à mourir à notre place, qu'aujourd'hui, lorsque Dieu regarde un homme ou une femme qui accepte Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, quand Dieu pose ses regards sur cet homme et cette femme, eh bien, il est justifié parce que quelqu'un a pris sa place. L'œuvre que Jésus a faite, c'est une œuvre de substitution. il a pris sur lui ma propre mort, ma propre condamnation, c'est lui qui l'a portée. Si vous relisez Ésaïe, chapitre 52, ben vous comprendrez, parce que là, ces choses sont prophétiques. Elles sont... Donc, il nous est dit qu'il a établi la paix, il a réconcilié l'homme avec son Créateur par la croix, et il a détruit cette inimitié qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Ça s'appelle le pardon, vous comprenez ? C'est la justice. Et le Saint-Esprit, à travers les temps, depuis la Pentecôte, à travers la prédication de l'Évangile comme nous le vivons ce soir, convainc les cœurs des hommes à se repentir, d'abord à reconnaître leur misère, leur perdition, à confesser leurs péchés, à se repentir et accepter Jésus comme leur sauveur, tout simplement, leur sauveur personnel. C'est la justice de Dieu. C'est ça ce que les hommes sont appelés à faire. Et lorsque nous sommes confrontés avec l'Évangile et que l'Évangile nous parle de la croix, du sacrifice expiatoire de Jésus, c'est une conviction à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas nous qui allons le fabriquer, mais nous sommes convaincus. La première fois que nous avons entendu l'Évangile ou les fois suivantes, à un moment donné, eh bien, nous avons été convaincus que nous étions perdus et que Jésus était notre sauveur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas l'habileté des paroles d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un évangéliste. Ça, c'est rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de justice. Et la justice, c'est que Jésus est mort à notre place. Un autre texte sur ce sujet, par exemple, tout simplement. Nous en avons un qui est très beau. C'est dans Philippiens, au chapitre 2. Et là, il nous est parlé justement de ce dépouillement, de ce sacrifice. Verset 7. Il nous est dit que Jésus existait en forme de Dieu. Dieu s'est incarné. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu un homme, un simple homme, semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort la plus ignominieuse, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout nom, au nom de Jésus-Christ, les hommes fléchissent le genou devant lui et le reconnaissent comme sauveur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul nom par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus le proclame et le dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est l'Évangile ce soir. Dans son essence, dans son expression la plus simple. Et pourtant c'est ça. Et c'est ça l'action du Saint-Esprit qui convainc nos cœurs que Jésus est vraiment la justice de Dieu. Le troisième point, c'est le jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Troisième aspect. Le premier, nous l'avons dit, on est sauvé par la foi. Deuxième aspect, on est sauvé par la foi dans le nom de Jésus-Christ à cause de son sacrifice, parce qu'il s'est fait victime expiatoire à notre place. Troisième point, c'est le jugement. Et vous savez ce que Jésus dit à ce moment-là ? Le jugement, en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Vous dire tout de suite, Jésus le dira, « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Donc, de quel jugement il est question ? Si ce n'est pas le jugement des hommes, c'est le jugement de celui qui a induit les hommes en erreur. Celui qui a entraîné les hommes à la révolte contre Dieu, à l'incrédulité. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le péché, le mal et la mort ont été, écoutez bien, définitivement vaincus. L'objection qui peut être donnée à cette affirmation, on me dira, mais alors, le monde dans lequel on est, il y a la guerre, il y a le sang, il y a la famine, il y a ceci, il y a cela, etc. Il y a l'occultisme, il y a la magie, il y a des gens qui font du mal, des mauvaises personnes, des toutes sortes de choses, c'est un monde infernal. Ouais, c'est vrai, c'est la réalité. Mais ce monde-là, c'est pas le monde des chrétiens. C'est pas le monde des disciples de Jésus, c'est pas le monde de ceux qui ont la foi en Christ et qui sont sauvés, qui ont été rachetés. c'est le monde des hommes qui ne croient pas, c'est le monde de l'incrédulité. Vous avez fait la différence? Mais pourtant pour nous, pour le croyant, la foi qui habite dans notre cœur, nous proclamons, parce que Jésus l'a dit, que notre ennemi, celui qui nous a entraînés dans la perdition et dont le Seigneur a ouvert nos yeux pour voir qui il était, et lui échapper par la foi, ben celui-ci, il a été vaincu. Et tout cela nous ramène à la croix de Golgotha, où Jésus a véritablement pris la victoire. Je répète, le péché, la mort, le mal, le malin, le diable et toutes ses cohortes infernales, le monde de ténèbres, a été définitivement vaincu. C'est fait, c'est pas à faire. Et les chrétiens n'ont pas à trembler, on n'a pas à avoir peur puisque c'est fait. Jésus le dit, et je le répète puisque je viens de le prononcer tout à l'heure, il dira « mais tout est accompli ». Et c'est là où nous avons véritablement une conviction inébranlable. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de la main de cet ennemi, Jésus-Christ est notre libérateur, nous sommes affranchis et nous n'avons plus à avoir de crainte ni de peur, parce qu'il a été vaincu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et à travers la prédication de l'Évangile, lorsque le message de la croix est annoncé, c'est ce même Consolateur, ce même Esprit-Saint, Esprit de Dieu, qui vient convaincre les hommes comme un jour il nous a convaincus nous-mêmes, que pour être sauvés, il fallait avoir la foi, qu'il fallait croire dans le sacrifice de Jésus, et que nous n'avions plus cet ennemi, même s'il est agissant. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Qui accusera les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Et quand on voit encore les chrétiens qui sont encore aux prises avec toutes sortes de délibérations par rapport de craintes et toutes sortes de choses. Mais où est notre conviction? Jésus est vainqueur ou il ne l'est pas? Tout simplement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le met dans notre cœur. Jésus connaissait la faiblesse humaine lorsqu'il rencontrait tous ces milliers de personnes dans ses parcours, dans ses pérégrinations, et sentant finalement ce qu'il pouvait y avoir de faiblesse dans l'âme humaine, dans le cœur humain, il disait « mais ne crains point !» Jésus n'est pas venu apporter un message de terreur, il est venu apporter un message de bonheur, et un message qui rassure, et un message de consolation. Donc, tout ça, eh bien, a été réglé une fois pour toutes. C'est pourquoi il nous est dit, mais le Saint-Esprit viendra, il convaincra les hommes de péché, vous savez pourquoi? Il convaincra les hommes de justice, parce que Christ est la justice, et il convaincra de jugement, parce que le jugement n'est pas sur nous, mais il était sur le diable. Maintenant, ceux qui continuent à suivre le diable, ceux qui sont entraînés par le prince de ce monde, ou inspirés par la puissance de l'air, alors c'est vrai qu'ils ont du souci à se faire. Parce qu'au lieu de prendre la bonne voie, ils prennent la mauvaise. Et malheureusement, le jugement qui est posé sur l'adversaire sera aussi posé pour ceux qui sont les suivants de l'adversaire et les tenants, finalement, eh bien, du mensonge. C'est encore Jean, l'apôtre, dans l'Évangile. Je vous donne quelques preuves au passage parce qu'il faut étayer ces textes. C'est pas possible autrement. Chapitre 12 et au verset 31, il est dit ceci. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et vous savez comment ça s'est passé? Le diable exultait lorsqu'il a vu Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il exultait encore quand Jésus était pendu à cette croix. Mais je peux vous dire que le troisième jour, il n'exultait plus, il a été vaincu. Parce que de la mort de Jésus est sortie la vie. C'est ça la grande différence. C'était la preuve que le diable a été vaincu. Il est vaincu. Et Jésus est vainqueur. Et si nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes vainqueurs avec Jésus contre ces choses. Le jugement a été prononcé. Puis, ce texte clé, avant de terminer, c'est le texte le plus de référence, nous pourrions dire, dans Colossiens, chapitre 2, verset 12. Il est dit ceci, quelquefois un peu difficile à comprendre, mais je pense que il nous est parlé que Jésus nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est au verset 13, à la fin du verset 13. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Ça, c'est le pardon de Dieu. Et il nous est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est comme si nous étions dans un tribunal. Mais un tribunal de grâce. Un tribunal qui absout. Qui absout les coupables. Qui va, finalement, eh bien, où il va y avoir un plaidoyer par l'avocat. Et qui va dire, non, non, parce que cet homme et cette femme croient en Jésus, eh bien, il n'est plus condamnable. C'est sa foi qui le sauve. Et il nous est dit donc, il nous a fait grâce de nos offenses. Et il a effacé cet acte. Vous savez, quand on est condamné, il y a un acte, hein, un acte judiciaire qui spécifie notre condamnation. Mais là, elle n'existe plus. Et qui subsistait contre nous. Alors, Jésus l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas en parlant, mais c'était en mourant. Ouais. Comment la mort peut donner la vie? Ça fera toujours partie du mystère de l'évangile et du mystère du plan de salut de Dieu. Comment la vie peut jaillir de la mort? C'est contraire à notre raison. C'est contraire à notre nature. Eh bien, il nous est dit que cet acte a été cloué comme si votre papier qui vous condamnait, eh bien, était aussi sur la croix, et il a été rayé, il a été complètement, tout simplement déchiré. Et il a dépouillé à ce moment-là les dominations et les autorités. Qu'est-ce que l'on appelle domination et autorité? Eh bien, on appelle justement le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les principautés, toutes sortes de choses dont il nous est parlé. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est Paul qui nous en parle de tout cela. Le monde des ténèbres a été vaincu. Le monde des ténèbres a été complètement anéanti et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça fait 2000 ans que l'on parle de la victoire de Jésus. La croix est l'emblème d'une victoire. Ce n'est pas la mort, c'est la vie. La croix, c'est l'emblème finalement de la liberté et non pas de ce qui peut retenir un homme cloué, attaché comme un misérable, ne pouvant rien faire, au contraire. C'est le contraire. Publiquement déclaré devant le monde entier. Ça fait 2000 ans qu'on parle de cette histoire. Vous vous rendez compte? Jamais nouvelle a fait autant de bruit et a été aussi longtemps portée et elle le sera jusqu'à la fin des temps. Je finis. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, on a expliqué un petit peu les choses. Et Jésus dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Ce que nous ne pouvons peut-être pas comprendre encore, nous le comprendrons bientôt, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous l'enseigner, c'est ce qu'il nous est dit. Quand le Consolateur sera venu, il est là ce soir, le Consolateur, la présence même de l'Esprit. Ouais, il est au milieu de nous. On le ressent peut-être pas, parce que c'est comme ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans la présence du Seigneur. Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là, le Seigneur est là en majesté au milieu de nous. Alors, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est lui, ce n'est pas un esprit de l'erreur, puisque l'Esprit de l'erreur a été condamné, et nous ne l'écoutons plus, nous ne voulons plus prêter attention et confiance. Alors il vous conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que l'on peut demander de mieux que ce message de l'Évangile qui nous promet que cet esprit nous prendra en charge et il ne nous conduira pas dans l'erreur, il nous conduira dans la vérité. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des hommes qui compliquent à un tel point que quand il s'agit du mensonge, ils y croient et quand il s'agit de la vérité, ils doutent. C'est le monde à l'envers. Si nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire dans la vérité, puisqu'il est l'esprit de la vérité, il va nous conduire dans la vérité. Est-ce que nous allons être trompés? Il n'y a aucune ombre de mensonge et d'altération dans la personne de Dieu. C'est la perfection. Alors il va nous conduire. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Eh oui. Les choses à venir, nous les savons déjà, en partie, pas tout. Mais nous savons que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés de nos péchés, que nous sommes des fils et des filles de Dieu, que nous sommes des héritiers, que Jésus revient bientôt, qu'il nous a préparé un royaume, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit Jésus, et que nous serons avec lui, qu'il est venu sauver l'Église, enlever l'Église, et il est venu nous préparer dans une autre dimension, spirituelle, éternelle et céleste, eh bien, le paradis qui avait été perdu au départ, vous comprenez? Eh bien, c'est ça. Il vous annoncera toutes choses. Ce sont des convictions dans notre, on n'a pas inventé une histoire. C'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'Évangile. Jésus nous le confirme. Quand Jésus nous dit « Je suis la vérité », il n'est pas le mensonge. Il nous a dit la vérité, c'est à nous de le croire. Et quand nous avons du mal à croire tout cela, eh bien, demandons à Dieu qu'il nous aide à croire. Dieu ne demande que cela, que les hommes se tournent vers lui pour dire « Mais Seigneur, je te demande que tu m'aides à croire comme ce père qui était venu solliciter Jésus pour son enfant qui était profondément malade et perturbé. » Il dira « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Alors, demandons-le au Seigneur. C'est la première des choses que le Seigneur veut faire pour chaque homme et pour nous, si nous avons des hésitations. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne va pas glorifier une église. Il ne va pas glorifier un pape ou un président de convention ou tout ce que voudrait. Hein, je pense sur le plan religieux, naturellement. Hein, il ne va pas glorifier un saint ou une sainte. Il ne va pas glorifier Marie non plus. Il va glorifier Jésus, le Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le Saint-Esprit va nous ramener aux paroles de Jésus, aux œuvres de Jésus, à la vie de Jésus, au sacrifice de Jésus, à l'éternité qui nous est préparée. Parce que tout est en Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit ce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et moi, je le crois. Ça va pas plus loin que ça. Mais ça va jusqu'aux limites de l'univers et de l'immensité de la création de Dieu. Ouais, ça va très loin. Alors, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aurais souhaité ce soir qu'au milieu de nous, toutes les places qui sont restées vides, eh bien, elles soient remplies par des gens qui viennent de l'extérieur. Et là, je peux vous dire, je peux vous convaincre, vous êtes convaincus, vous êtes chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu, vous... On dit amen naturellement à tout ce qui a été dit. Mais imaginez-vous que nous nous trouvions devant un auditoire de 100, de 500 personnes, de 1000 personnes, derrière les paroles d'un modeste prédicateur. Eh bien moi je peux vous dire qu'il y a une onction du Saint-Esprit. Et vous savez, il y en a un qui ne veut pas que les hommes entendent l'Évangile. Parce qu'il se passerait des choses, il se passe des choses. Et là il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des choses extraordinaires et surnaturelles. On comprend qu'il les retient. Et pour cause, mais il est vaincu quand même. Il est vaincu quand même. Et Jésus est vainqueur. Alors, c'est bien le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On va prier quelques instants, vous voulez bien? On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus. Il n'y a pas de plus belle, de plus grande, de plus noble, de plus céleste nouvelle que celle de ce message de l'Évangile qui nous parle de Jésus. Merci, notre Père, parce que tu as conçu un plan merveilleux de salut pour l'humanité. Merci, Jésus, de ce que tu as accepté par l'obéissance à mourir à notre place, et bien de prendre nos péchés, de prendre notre châtiment, notre condamnation, pour que, en effet, Seigneur, de condamnable et de condamné, nous soyons absous et que nous soyons libérés. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que l'ennemi qui a rôdé pendant des siècles et des siècles sur l'histoire et sur l'humanité a été en effet vaincu à cause de la croix du calvaire. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que s'il est encore agissant, il n'est pas agissant. Eh bien, Père éternel, pour l'Église, pour les hommes et les femmes qui appartiennent aux rachetés, mais il est agissant pour les incrédules qui se laissent mener, qui se laissent abuser, qui se laisse conduire par le mensonge. Et nous avons ce soir été confrontés avec la vérité. Et cette vérité de ta parole, c'est elle, Seigneur, en effet, qui amène véritablement, Seigneur, à la foi, à faire naître la foi dans le cœur des hommes. Parce que ce que l'on entend, eh bien, vient de la parole de Dieu. Et ce qui donne la foi, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Seigneur, tu nous bénis ce soir, tu nous fais du bien. Et par-delà, Père éternel, eh bien, Seigneur, nos cœurs qui ont été attentifs à ce qui a été dit, eh bien, moi, je te prie, nous te prions tous ensemble ce soir pour qu'il y ait des cœurs ailleurs, en effet, qui pourront être relayés d'une manière ou d'une autre, qui pourront être à l'écoute de ce message de ce chapitre de Jean, et qui là, Père éternel, eh bien, trouveront véritablement la lumière, la foi et la véritable vie sous l'action puissante de ton esprit, parce que l'esprit convainc de vérité, de justice et de péché. Merci notre Dieu, merci Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.